record dans la production d'électricité par les centrales à cycle combiné en Iran. Plus de 10 roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza vers les colonies israéliennes. Et 61% des Français exclus de voter pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle. C'était les principaux titres. En voici le journal. Les statistiques de production d'électricité des centrales thermiques de l'Iran montrent qu'entre avril 2020 et avril 2021, grâce à la mise en service de la section vapeur des 7 nouvelles centrales électriques du pays, le secteur d'énergie d'Iran a brisé le record de la production d'électricité dans le domaine des centrales à cycle combiné en tant que groupes électrogènes respectueux de l'environnement. La conversion des centrales à gaz en cycle combiné est l'un des moyens d'améliorer l'efficacité des centrales thermiques du pays. Cela est fructueux non seulement pour le rendement de l'industrie de l'électricité, mais aussi pour la protection de l'environnement et la réduction de la consommation de carburant. D'après ce mécanisme, en plaçant une turbine à vapeur de 160 MW le long de deux turbines à gaz de 159 MW et en formant un bloc de cycle combiné sans avoir besoin d'une consommation de carburant supplémentaire et en bénéficiant de la chaleur récupérée lors du premier cycle de production d'électricité, le rendement de la centrale augmente environ 34% à près de 50%. Entre mars 2020 et mars 2021, 343 millions de mégawatts d'énergie ont été générés dans toutes les centrales électriques de l'Iran, thermiques, hydrauliques, nucléaires et renouvelables, dont la part des centrales thermiques, chauffage, gaz, cycle combiné était de plus de 314 millions de mégawatts. Entre mars 2020 et mars 2021, 92% des besoins en électricité de l'Iran ont été fournis par des centrales thermiques. La production de ces unités a augmenté de plus de 9% par rapport à l'année dernière du calendrier persan. Selon les responsables du ministère d'énergie, la capacité de centrales thermiques sera augmentée encore de 69 000 MW au mois de juin et après la fin des réparations techniques. Trois missiles ont été tirés vendredi soir depuis la bande de Gaza vers le sud d'Israël, a indiqué l'armée israélienne dans un communiqué. L'un des missiles a été intercepté par le bouclier antimissile israélien Dôme de fer et les deux autres se sont abattus près de la barrière de sécurité entre Israël et la bande de Gaza, a prétendu l'armée israélienne. Après ces tirs, sept nouveaux missiles ont été lancés depuis Gaza vers le sud d'Israël. Les sirènes d'alarme ont retenti au moins quatre fois dans les colonies de Kisofi d'Eshkol, situé autour de la bande de Gaza. Selon les médias israéliens, des groupes de résistance palestiniens ont tiré 17 missiles sur Israël ces dernières heures. Les brigades du martyr Abou Ali, la branche militaire du Front populaire pour la libération de la Palestine, ont revendiqué ces attaques aux missiles. Par ailleurs, des centaines de colons israéliens appuyés par les militaires du régime de Tel Aviv ont attaqué des Palestiniens dans la nuit du jeudi 22 au vendredi 23 avril dans plusieurs quartiers de la ville Sainte-Rotz. Le nombre de blessés palestiniens a dépassé les 115 personnes. À la suite des affrontements les plus violents de ces dernières années à Rotz, la branche militaire du mouvement de la résistance islamique de la Palestine, le Hamas, a apporté son soutien vendredi aux Palestiniens de Rotz sous forme de mise en garde à Israël. Rappelons que le Hamas et Israël se sont affrontés directement trois fois entre 2008 et 2014. Les commandants de l'armée syrienne et les commandants des miliciens kurdes se sont réunis pour trouver une solution menant à l'apaisement des tensions. Réunis ce vendredi 23 avril à l'aéroport de Ramishli, sous la médiation de la Russie, les commandants en question ont examiné les origines des affrontements entre les deux parties à Ramishli, dans la province de Rasaké, et les solutions pouvant mettre fin à ces conflits. D'intenses affrontements ont éclaté ces derniers jours à Ramishli, opposant les forces de défense nationale au FDS, Force démocratique syrienne. À noter que des unités de l'armée syrienne sont passées à l'acte pour donner un coup de main aux forces de défense nationale. Selon les sources locales, les affrontements ont éclaté lorsque les miliciens kurdes ont lancé une offensive pour couper le quartier de Aretay, non loin de l'aéroport. Dans la foulée, la tribu Tay a annoncé dans un communiqué qu'il fallait combattre les FTS, soutenus par les occupants américains. Il y a deux jours, la Russie est passée à l'acte pour assurer une médiation entre les deux parties et les a convaincus à s'asseoir à la table des négociations pour conclure un cessez-le-feu. Les FTS et les forces de défense nationale syriennes ont entamé leurs négociations vendredi soir, alors que les effectifs de la police militaire russe ont été déployés dans les quartiers de conflit. À Ramishli, de nombreux habitants ont été forcés de quitter leur domicile. La ville est contrôlée en même temps par les forces de défense nationale et les miliciens kurdes. L'aéroport de Ramishli et le centre-ville sont sous le contrôle des forces de défense nationale. Une nouvelle attaque a été menée par les forces armées yéménites contre la base aérienne saoudienne de King Khaled à Khamis Mushait. Le général de brigade Yahya Sari, le porte-parole des forces armées yéménites, a annoncé ce vendredi 23 avril une nouvelle attaque contre la base aérienne de King Khaled dans le sud-ouest de l'Arabie saoudite. Le général Sari a déclaré que l'unité de drones de l'armée yéménite avait de nouveau ciblé la base aérienne de King Khaled à Khamis Mushait avec un drone de type Rasif K2 lors de l'attaque. Une position militaire importante a été visée avec précision, a-t-il fait savoir. Il a ajouté que cette attaque était une réponse légitime aux agressions continues et aux blocus imposés contre le Yémen par l'Arabie saoudite. Cela intervient alors que le général de brigade Yahya Sari avait annoncé plus tôt ce vendredi matin que l'armée yéménite avait visé la compagnie pétrolière saoudienne Aramco et la base de King Khaled à Khamis Mushait avec 3 drones. Selon un sondage BVA pour RTL et Orange, publié le vendredi 23 avril, 6 Français sur 10 ne voteraient pas pour Emmanuel Macron s'il se présentait à la présidentielle. Sa cote de popularité, pourtant, n'est pas si mauvaise. À un an de la présidentielle, les sondages se font de plus en plus nombreux. Et celui publié ce vendredi 23 avril par RTL et Orange, réalisé par BVA, n'est pas en faveur du président sortant. Selon lui, 6 Français sur 10, 61%, exclus de voter pour Macron au premier tour de l'élection présidentielle de 2022 s'il se représente. Parmi les moins enclins à lui accorder leur vote figurent en particulier les personnes entre 35 et 64 ans et les sympathisants de la France insoumise et du Rassemblement national. À l'inverse, 11% disent être certains de voter pour lui et 28% que c'est possible. Après 4 ans de mandat, les Français sont 59% à estimer qu'Emmanuel Macron est un mauvais président contre 40% qu'il est un bon chef de l'État. Son action est perçue comme plutôt un échec en matière d'immigration pour 68% des personnes interrogées, de sécurité 66%, de pouvoir d'achat 64% et d'emploi 62%. Après avoir beaucoup souffert au cours de la première année de mandat, son image a toutefois globalement peu changé depuis. Il est d'abord perçu comme ayant des convictions profondes, 52% moins 2 points, comme étant solide, ayant de l'autorité, 45% plus 2, et une stature présidentielle qui valorise la France, 43% plus de 2 points. Mais on lui reproche aussi toujours d'être trop sûr de lui. Seuls 25% des Français, moins 5 points, considèrent qu'il est capable de reconnaître ses erreurs. Les combats dans la région éthiopienne du Tigré limitent les effets de la réponse humanitaire et créent une situation incertaine dans un contexte pénurie d'eau critique, ont indiqué vendredi des acteurs humanitaires de l'ONU. La situation humanitaire dans le Tigré en Éthiopie reste incertaine, avec des affrontements armés signalés dans certaines zones, notamment autour d'Abiy Adi dans la région centrale, ce qui restreint les mouvements et la réponse humanitaire, a déclaré le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA. Il y a des pénuries d'eau critiques dans la plupart des parties de la région. Les partenaires humanitaires de l'organisation et le gouvernement régional déploient 123 camions-citernes destinés à plus de 288 000 personnes dans la région, notamment dans la ville de Mekele et dans la ville de Shire, a précisé le CHA. D'après les récentes évaluations des besoins, 285 camions-citernes sont nécessaires au cours des trois prochains mois. Le gouvernement a signalé l'arrivée de 75 000 personnes récemment déplacées dans la ville administrative centrale de Chiré au cours de la semaine dernière, ce qui porte le nombre de personnes déplacées à Chiré à près de 500 000. Alors que la plupart des personnes déplacées vivent avec les communautés d'accueil, les autres se trouvent dans 15 sites, dont la plupart n'auraient reçu aucune assistance au cours des deux ou trois derniers mois, ont indiqué les acteurs humanitaires. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Comment un seul missile balistique tactique a fait éclater en 1000 morceaux le mythe d'Essam multicouche d'Israël? Le missile qui a failli pulvériser le réacteur de Dimona avec son ogive de 200 kg, comme l'a fait remarquer Lieberman, a mis KO le système Arrow d'Israël. Et pourtant, cela fait 3 ans que l'entité bassine les oreilles du monde entier sur de supposées capacités d'interception de son Arrow. Le missile tirait depuis la Syrie en direction de la ville de Dimona, près du désert Negev, a révélé ce qu'était le talon d'Achille du régime sioniste. Les systèmes antimissiles du régime sioniste ont été incapables d'intercepter le missile syrien de type S-200. Le missile qui aurait été tiré depuis la Syrie en direction du désert du Negev dans les territoires occupés a provoqué une explosion si forte que les habitants de la ville de Naplouse en Cisjordanie occupée l'ont entendu et ont indiqué que leur maison avait été secouée, a rapporté le journal Al-Akhbar. Le compte-rendu officiel de l'incident publié par Israël est rempli d'éléments contradictoires qui soulèvent de nombreuses questions sur les auteurs de l'attaque, le type de missile, mais surtout l'incapacité du système antimissile israélien à l'intercepter, a fait noter le journal. Retiré tout de suite après leur publication du site officiel de l'armée israélienne, mais publié par les médias sionistes, les communiqués de l'armée israélienne affirment pour l'un que le missile tiré par le système antimissile n'a pas réussi à atteindre ni toucher le missile syrien de type S-200 et pour l'autre que le missile syrien a atterri sur les territoires occupés sans jamais être intercepté par les systèmes antimissiles israéliens. Ce qui montre que l'armée du régime sioniste a eu 2 récits contradictoires sur une attaque au missile qui semble avoir été menée depuis le territoire syrien. Alors que Benny Gantz, ministre israélien des Affaires militaires, a fait état du lancement d'une enquête sur la non-interception du missile syrien, un expert militaire des médias sionistes cité par le journal Yediot Aharonot prétend que les explosions entendues dans la région d'Al-Rotz ont été causées par des missiles intercepteurs. Bien qu'ils soient publiés distinctement, les 2 communiqués de l'armée sioniste aboutissent au même résultat. L'échec des systèmes antimissiles israéliens lors de l'interception d'un missile venu d'un endroit quelconque, quelle que soit la raison, faille technique ou erreur humaine. Cependant, la 2e version des faits livrée par l'armée israélienne sur l'inaction du système antimissile au moment de l'attaque est le signe d'un échec plus grave. Un système antimissile a pour mission d'intercepter le missile et d'activer les sirènes dans la zone censée de l'atterrissage. De son côté, la chaîne 13 de la télévision israélienne, citant l'armée de ce régime, a rapporté que selon les résultats préliminaires de l'enquête sur l'incident dangereux, un missile solaire a été tiré depuis le territoire syrien et a atterri dans des zones ouvertes dans le désert du Negev, près de la ville de Dimona. Le missile n'a pas du tout été intercepté. Dans une interview à la radio FM 103 du régime sioniste, le maire de Dimona, Benny Betan, a déclaré « Malgré tous les outils de support, nous nous sommes rendus compte aujourd'hui que tout peut atteindre Dimona. » Réagissant au tir du missile, Avigdor Lieberman, chef du parti Israël Beitenu, a annoncé l'effondrement du pouvoir dissuasif d'Israël tout en accusant Netanyahou de s'endormir en regardant ce théâtre. mettant en garde que la situation catastrophique à laquelle est confronté le régime sioniste ne se limite pas à un missile avec une ogive de 200 kg. Lieberman a appelé le Parlement israélien à briser le silence, mais aussi à convoquer une réunion urgente pour discuter du niveau de préparation des instances sécuritaires face à l'escalade des tensions avec la Syrie et l'Iran.